autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en orbite aujourd'hui, chers amis auditeurs, autour d'une question sidérale. À qui appartient l'espace, la Lune, Mars et leurs ressources naturelles? Qui aura le droit de les exploiter et comment, avec le renouveau de l'exploration spatiale, quelle géopolitique se joue et va se jouer dans l'espace? Entre les États-Unis, la grande puissance spatiale qui va bientôt poser son nouveau rover Perseverance sur Mars, et les autres, les grands anciens comme les Russes, les Européens, les Japonais, mais aussi et surtout les petits nouveaux, enfin petits façons de parler, à commencer par les Chinois qui ont rejoint le club fermé des grandes puissances spatiales en se lançant avec succès dans l'exploration de la Lune et de sa face cachée, sans oublier l'Inde ou les Émirats arabes, tous tentés par l'aventure spatiale à laquelle participent désormais des acteurs privés. Comment s'y retrouver? Quel droit? Quelle géopolitique pour l'univers? Un immense chantier éminemment complexe que nous allons ouvrir avec nos invités. La directrice de recherche Isabelle Sourbès-Verger, spécialiste de géopolitique spatiale, et Julien Mariez, qui dirige le service juridique du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Autour de la question « À qui appartient l'espace ?», bienvenue pour décrocher la Lune et ses satellites.
Jamais à Moscou, vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Sputnik a fait recette et des affiches préparent déjà les moscovites au futur voyage dans la Lune.
5, 4,
le compte à rebours est lancé.
1-0 and lift off.
La fusée Atlas V décolle pour Mars, la planète la plus convoitée du système solaire. À ce jour, seuls les Américains ont réussi à faire atterrir des robots intacts sur Mars.
Je déclare ici que le projet Chang'e 5 d'exploration lunaire de la Chine est un succès complet.
Vu les circonstances aujourd'hui et vu les relations entre les pays, est-il envisageable qu'il y ait une loi qui soit signée et acceptée par tous dans l'espace? Ou est-ce que ça va être le Far West pendant encore un certain temps?
Le Far West dans l'espace avec tir de fusée, occupation d'astéroïdes et ruées vers les ressources lunaires et martiennes. Ça fait un peu film de science-fiction autour de la question à qui appartient l'espace. Il y a tout de même de quoi s'interroger. Aujourd'hui avec vous, Julien Mariez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct en studio. Vous êtes juriste, Julien Mariez. C'est vous qui dirigez le service juridique du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. C'est le Far West, sans foi ni loi, dans l'espace?
Alors, le Far West, hein, c'est une expression imagée qui parle au plus grand nombre, et qui charrie son lot d'images de lutte sans merci entre des hors-la-loi et puis d'autres personnes chargées de maintenir l'ordre. Bon, la réalité est un peu plus nuancée, je dirais.
D'abord, tout le monde est hors-la-loi ou tout le monde est... Enfin, en gros, hein, je dis ça comme ça, mais il n'y a pas vraiment de loi, ni de droit dans l'espace.
Si, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est...
Excusez-nous, on a eu un petit larcène.
Oui, donc effectivement, il y a des lois, des traités qui s'appliquent dans l'espace, des traités internationaux qui ont été en fait élaborés au moment de la conquête spatiale dans les années 60 et 70. Et ces traités, pour la plupart, ont fait l'objet d'une large acceptation par les États, notamment les États spatiaux comme les États-Unis, la France, la Russie ou la Chine. Donc, il y a tout un ensemble de règles qui vont régir l'exploration et l'utilisation de l'espace, notamment la question centrale de la propriété des corps célestes. Ceci étant...
La propriété des corps célestes. À qui appartiennent-ils et à qui appartiennent les ressources?
Et justement, ce que disent très clairement les traités, c'est que l'espace ne peut pas être approprié par un État ou un individu. Donc il y a un principe d'interdiction de l'appropriation de l'espace et des corps célestes, qui est clairement posé par le droit international et que les États connaissent et respectent. Il y a en revanche, je dirais, une limite, et c'est peut-être là qu'on peut faire référence à la notion de Far West. Eh bien, cette limite, c'est la question du statut des ressources des corps célestes.
À qui appartient l'espace? C'est-à-dire la Lune, Mars, à tout le monde, c'est universel, ça n'appartient à personne, ça ne peut appartenir à personne.
Tout à fait.
Mais par contre, pour ce qui est des ressources sur place, sur la Lune, Mars, sur les astéroïdes, la question est ouverte.
Et plus nuancée, effectivement, en fait, tout a démarré il y a quelques années quand les Américains ont commencé à émettre l'idée, justement, d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, sur les astéroïdes. et exploiter les ressources minières des corps célestes. Et là, il y a une levée de bouclier, en quelque sorte, de la part de beaucoup d'États ou d'acteurs du spatial qui ont dit « Mais attendez, vous êtes liés par le principe d'interdiction de la propagation des corps célestes, donc vous n'avez pas le droit d'aller sur Mars, d'en explorer et d'exploiter et de vous approprier ces ressources. » Et les Américains ont dit « Mais attendez, vous faites fausse route. Les traités, ils posent le principe de l'interdiction de l'appropriation des corps célestes en tant que tels. En revanche, ils sont muets, ces traités, sur le statut des ressources. » Donc, moi, je considère, enfin, les États-Unis plutôt, considèrent que, dans le silence des traités sur ce point précis, ils sont autorisés à s'approprier les ressources des corps célestes.
Il va donc falloir se mettre autour de la table. Comment ça? On va voir ça. Isabelle Sourbès-Verger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct en ligne avec nous depuis chez vous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de géographie circumterrestre et de géopolitique spatiale, notamment de la politique spatiale chinoise. On a parlé des Américains, on a parlé des Chinois, on a parlé des Russes. Qui sont les acteurs principaux, les grandes puissances spatiales aujourd'hui? Ce sont les États-Unis qui mènent la danse tout de même. Mais qui sont les acteurs, les grandes puissances spatiales aujourd'hui?
Oui, alors effectivement, les États-Unis représentent une puissance spatiale complètement atypique hein, par rapport à ce qu'on appelle le reste du club spatial, ce petit groupe de 11 États à peu près qui, et c'est l'originalité de la définition, finalement sont capables d'envoyer par eux-mêmes leurs propres satellites depuis une base qui leur appartient. Donc vous évoquiez les Émirats Arabes Unis, on en reparlera sans doute, les Émirats Arabes Unis ne sont pas une puissance spatiale parce que les Émirats Arabes Unis ne peuvent pas lancer tout seuls leurs satellites et donc ils dépendent d'un pays lanceur. Mais si on considère donc ce fameux club spatial, c'est sûr que les États-Unis ont un budget, enfin je crois que les choses sont assez claires comme ça, ils ont un budget de l'ordre de 50 milliards de dollars tous les ans, soit 5 fois plus que la deuxième puissance spatiale dont on n'a pas encore parlé qui est l'Europe et qui se situe autour de 10 milliards de dollars. C'est à peu près le chiffre auquel on estime le budget spatial chinois, puisqu'on n'a pas de chiffres officiels, mais en gros, c'est à peu près sur ça qu'on s'entend tous. Donc, si vous essayez de vous projeter, que vous imaginez que depuis 60 ans quasiment, les Américains investissent 5 fois plus que la deuxième puissance, et pendant près de 30 ans, on va dire peut-être 10 fois plus que ce que les Chinois investissaient, on comprend quand même bien pourquoi leur rôle et la façon dont ils se projettent dans l'espace est complètement différente de ce que peut être la politique spatiale de tous les autres pays.
Donc, ça, c'est le premier point. Voilà, les Américains, la première grande puissance est de loin. Et derrière, vous parlez des Européens.
L'hyperpuissance spatiale. L'hyperpuissance spatiale. C'est très amusant. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Et Julien l'évoquait, on y reviendra. C'est que finalement, du fait de ce caractère d'hyperpuissance spatiale, c'est un petit peu eux qui font les règles du jeu.
C'est ça.
Et qui prédéterminent. Et d'ailleurs, moi, je suis assez frappée. On parle de Far West, mais Far West, c'est typiquement une notion américaine.
C'est vrai.
Donc, on parle de Far West, on parle de nouvelles frontières. Donc, on rentre complètement dans un système de projection qui configure aussi les médias internationaux et même les médias russes et chinois référencent quand même par rapport à ces déclarations américaines qui, là encore, sont extrêmement majoritaires. Donc, deuxième puissance spatiale, c'est difficile à dire. On pourrait dire que c'est l'Europe si on prenait en compte, je dirais, la capacité technologique. Ce serait peut-être plutôt la Chine, voire la Russie, si l'on prenait plutôt en compte la capacité à maîtriser toute la gamme des réalisations spatiales. Par exemple, l'Europe a choisi de ne pas envoyer elle-même des hommes dans l'espace. La Chine avait un choix différent puisqu'elle maîtrise les vols habités.
Les taïkonautes, oui.
Mais si vous preniez par exemple la gamme des applications spatiales militaires, la Russie, entre autres avec la surveillance de l'espace, maîtrise des technologies que la Chine ne maîtrise pas. Donc cette idée, si vous voulez, du classement, et puis on oublie tout le temps, un peu comme on oublie souvent l'Europe, on oublie tout le temps le Japon, le Japon quand même, en ramenant des échantillons des astéroïdes, fait preuve d'une maîtrise technologique qui est beaucoup plus impressionnante que la mission Emirati vers Mars. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a une vraie question du traitement de l'information et surtout de l'image que vous vous faites vous-même de la conquête spatiale et du point de vue avec lequel vous l'étudiez.
Alors, vous avez parlé donc de l'hyperpuissance des États-Unis. Vous avez parlé, tout dépend l'Europe, si on considère la technologie, ça peut être la Russie, si on prend d'autres critères. Vous avez signé vous-même, Isabelle Sobaz-Verger, dans Le Monde daté d'aujourd'hui, lundi 25 janvier 2021, un interview croisé avec Marc Julienne, dans lequel vous vous interrogez sur la puissance spatiale militaire de la Chine. La Chine... Et vraiment fait son entrée dans ces puissances spatiales.
Alors, la Chine a fait son entrée dans les puissances spatiales depuis quand même, on va dire, facilement une petite dizaine d'années, hein, clairement. Alors après, si vous voulez, la puissance spatiale dont on n'a pas parlé, qui vient ensuite, ça serait l'Inde, qui est certainement en retrait par rapport à la Chine. Mais cette question du spatial militaire chinois, elle est importante parce que, là encore, la grille de lecture que l'on va appliquer au spatial chinois, c'est la grille de lecture qu'on va appliquer systématiquement à la place de la Chine dans les relations internationales. Et donc, cette question du militaire chinois, elle pose beaucoup d'interrogations, surtout parce que ce que l'on craint, finalement, ça serait une capacité agressive de la Chine dans l'espace. Et ça, c'est encore le discours américain. En fait, moi, ce que j'essayais de faire dans cet article, c'était de montrer que, certes, il y a du spatial militaire, que d'une certaine façon, la Chine développe des missions militaires de plus en plus spécialisées, et c'est nouveau, elle est encore très, 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 très loin de savoir faire ce que font les États-Unis, mais surtout la Chine a un programme qui est un programme complètement gouvernemental, dans lequel, avec en plus le lien du civilo-militaire, vous avez effectivement un jeu sur la dualité des systèmes spatiaux. Mais aujourd'hui, la seule grande puissance spatiale militaire au monde, ce sont là encore les États-Unis.
Julien Mariès, comment faire, puisqu'il y a donc l'hyperpuissance spatiale américaine et puis les autres derrière avec des nouveaux venus, on parlera aussi des acteurs privés dans l'espace. Comment faire? Est-ce qu'il faudrait que tout le monde se mette autour d'une table? Est-ce qu'on est condamné à suivre les Américains, puisque c'est l'hyperpuissance? Est-ce qu'on est condamné aussi à rester dans une grille de lecture pas très claire? On voyait bien avec Isabelle Sobaz-Verger qu'on a tendance à finalement suivre les Américains, à parler de conquête de l'espace, à appliquer à l'espace notre géopolitique terrestre. Comment est-ce qu'il faudrait faire?
En fait, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à l'ONU un comité sur l'espace qui est chargé chaque année de se réunir et de discuter des questions relatives à l'exploration et l'utilisation de l'espace. Et vous avez notamment un sous-comité juridique. Et c'est ce sous-comité qui est compétent pour adopter, normalement, les règles qui vont régir l'espace. Le problème, si vous voulez, c'est que ce comité fonctionne sur la base du consensus. Donc il y a une centaine d'États membres actuellement, et évidemment, dans le contexte géopolitique actuel, réussir à obtenir un consensus entre les États-Unis, la Russie et la Chine, pour ne citer qu'eux, c'est une gageure. Et donc, aujourd'hui, les États discutent, effectivement, à ce comité de l'ONU, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur d'éventuelles nouvelles règles qui viendraient régir l'exploration et l'utilisation de l'espace.
Parce qu'il faut des nouvelles règles aujourd'hui pour plein de raisons. On n'en est plus du tout à l'époque, à la première époque de l'aventure spatiale, de la conquête spatiale pendant la guerre froide. La technologie a complètement changé. Et puis il y a la question des ressources. La Lune est le premier objectif pour tout le monde, pour aller sur Mars, mais pour les ressources lunaires. Hein. Si on veut aller sur Mars, il faut des ressources lunaires. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se reposer et auquel il va falloir trouver un consensus ou une réponse qui ne soit pas que celle de l'hyperpuissance américaine.
Alors, tout à fait, effectivement, les traités tels qu'ils ont été élaborés il y a 50 ans, ils n'abordaient pas évidemment les questions assez modernes d'exploitation des ressources spatiales. Encore que, il faut nuancer ça encore une fois, puisque vous avez un autre traité qui a été adopté en 1979, qui portait spécifiquement sur la Lune et les corps célestes, et qui prévoyait justement l'interdiction de l'appropriation des sous-sols et des ressources des corps célestes. Mais ce traité, il n'a été ratifié par quasiment personne, et notamment pas par les Américains, les Russes, les Chinois. Donc, on voit qu'il y a une défiance quand même vis-à-vis de l'interdiction de l'appropriation des ressources. Mais ceci étant, effectivement, aujourd'hui, on se dit que les traités ne sont pas totalement obsolètes, mais peut-être qu'il faudrait commencer un peu à les dépoussiérer et voir si on ne peut pas adopter des règles qui viendraient régir notamment la question de l'exploitation des ressources des corps célestes. Mais encore une fois, les conditions politiques qui présideraient à ce changement aujourd'hui ne sont vraiment pas réunies. Et ce qui se passe in fine, c'est que, comme l'a dit Isabelle, et comme vous l'avez souligné également, c'est que bon an mal an, la majorité des États finissent par se rallier à la vision américaine des choses et à la vision américaine du droit de l'espace. Je rappelle qu'il y a 5-6 ans, quand les Américains ont commencé justement à dire on va aller exploiter les ressources de la Lune, de Mars et des corps célestes, les États, le secteur spatial était assez divisé. Beaucoup d'intervenants étaient contre, en disant que ceci était contraire au traité. Et puis, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les Américains ont légiféré sur la question au niveau national. Ils ont pris une loi qui autorise leurs ressortissants à exploiter les corps célestes. D'autres États ont embrayé, le Luxembourg, les Émirats Arabes Unis. D'autres prévoient de le faire, a priori. Et finalement, la question aujourd'hui n'est pas tant de savoir si sur le principe, on peut, oui ou non, de façon licite, s'approprier les ressources, mais comment on va le faire? Et donc ça suppose évidemment, si on veut régler la question au niveau international, que les États réussissent à trouver un dénominateur commun et se mettent d'accord sur des règles. C'est pas évident.
Comment se partager l'espace, quoi, finalement, la Lune, ses ressources naturelles, Mars et les corps célestes. Alors l'objectif aujourd'hui, on l'a dit, c'est quand même la Lune, hein, autour de la question à qui appartient l'espace. Et on va commencer par se poser en musique sur la Lune avec Soulfiane Stevens. Ça, c'est votre choix, hein, Julien Mariès. Un choix psychédélique et intersidéral, comme on aime. Extrait de l'album Planétarium de Soulfiane Stevens. Le morceau s'intitule évidemment Moon.
Rabbit jumped with a generous moon, offering himself on the fire for food. Touched by his virtue, the fortune approved, outlining ears on the fortress moon.
Peut arriver on the moon again avec Soulfiane Stevens sur RFI. Merci pour ce très joli choix, Julien Mariès. Alors je rappelle que vous êtes chef du service juridique du CNES. Nous sommes également en direct en ligne avec Isabelle Sourbès-Verger, chercheuse au CNRS, spécialiste de géopolitique spatiale. Autour de la question à qui appartient l'espace et pourquoi tout le monde veut y aller, veut en être, c'est l'astrophysicien François Forget, formidable chercheur très impliqué dans l'exploration martienne en particulier et dans l'exploration de tout le système solaire en général, qui travaille aussi bien avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, que la NASA ou avec les Émirats arabes unis dont on a parlé également. François Forget s'interroge et vous interroge sur les réelles motivations des vols habités dans l'espace. On l'écoute.
Dans ces histoires d'exploration humaine, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la justification. Parce que ça coûte très cher et donc c'est intéressant de raconter qu'on n'y va pas que pour la science. On ne peut pas se tourner vers des médecins ou des physiciens en leur disant « Non, mais nous, pour comprendre les mystères de Mars, on a absolument besoin de 150 milliards d'euros. » Parce que c'est pas vrai. Et par contre, ça se justifie autrement. Et maintenant, après la guerre froide, après plein de motivations diverses, actuellement, côté américain en tout cas, c'est très frappant, c'est le sujet que je suis, la justification numéro un mise en avant par notamment la NASA, enfin le gouvernement américain, c'est le fait qu'il faut avoir place à la table pour les futurs traités de droit à l'espace, de droit d'exploitation. Parce que c'est sûr que si on arrête d'envoyer des hommes dans l'espace et que la Chine fait tout seul, elle pourra naturellement édicter ses propres lois. Un peu comme beaucoup de pays, dont la France, maintiennent des bases en Antarctique, C'est pour la science, mais c'est aussi pour être sûr d'avoir un siège aux différentes négociations sur les traités de l'Antarctique et être sûr que nos valeurs soient respectées dans ce contexte-là. Alors, les valeurs européennes, c'est plutôt de ne pas exploiter l'Antarctique, mais si on laisse les Chinois, ils vont mettre des mines partout. Il y a un peu cette idée-là. Donc, dans l'espace, c'est pareil. C'est devenu la motivation pour la Lune, oui. C'est-à-dire que si, en Europe et aux États-Unis, on arrêtait complètement d'envoyer des hommes dans l'espace, franchement, ça coûte cher, c'est pas facile à justifier. Alors, il y a d'autres justifications. Et que les Chinois disaient, bah, OK, nous, on va le faire de notre côté. Après, naturellement, ils pourront tout seuls décider qu'on a le droit d'exploiter ci et ça, etc. Alors, ça paraît anecdotique, mais c'est devenu la motivation officielle numéro un côté NASA.
Qui veut réagir à cet éclairage de François Forget? Isabelle, sur Baisse-Verger.
Oui, moi je veux bien parce que peut-être pour regarder un peu le spatial chinois, je suis toujours très 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 étonnée de tout ce qu'on peut prêter comme ambition et surtout comme capacité aux Chinois. Mm-hmm. J'ai un petit peu regardé, aucune station lunaire habitée n'est imaginée par la Chine, aucun programme officiel n'est décidé et les projection qu'on peut voir sur du lunaire habité, c'est 2036,
ouais,
2045.
Ah ouais, ouais.
Alors, on ne fait pas croire quand même que Trump avait besoin de commencer à faire un retour sur la Lune en 2024 pour anticiper et être présente à la table des futurs traités, sachant que les États-Unis sont déjà complètement à la table de tous les traités. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ce besoin des États-Unis de toujours se trouver un compétiteur. Et je pense qu'il y a une certaine bonne foi, d'ailleurs, d'une certaine façon.
Oui.
Je pense que cette idée que la Chine pourrait arriver et tout rafler, c'est effectivement dans l'imaginaire américain. Je prendrai un exemple, si vous regardez la série Space Corps, c'est assez rigolo parce qu'à un moment, les Américains ont des problèmes et ce qu'on voit arriver majestueux, c'est une station spatiale chinoise qui est capable de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. C'est juste complètement de la science-fiction. C'est inimaginable. Là, c'est vraiment
le traumatisme américain. C'est le fantasme américain auquel on colle tous finalement, parce qu'au fond, les Américains sont bien loin devant. Ils ont une expérience, des moyens, des années d'avance, quoi.
Et puis en plus, les Américains, je dirais, le spatial, ça fait vraiment partie de leur ADN, et pour des raisons évidentes. Ils n'ont pas été un peuple colonisateur, etc. Et de toute façon, ils se projettent. Le discours chinois, véritablement, il n'est entraîné dans ce genre de compétition que parce que c'est ainsi que les positionnent les Américains. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez un effet boomerang. C'est-à-dire que si vous êtes un homme politique chinois et que vous lisez partout dans la presse occidentale que peut-être que vous allez dépasser les États-Unis, ben ça vous donne plutôt envie de donner un petit peu plus d'argent au secteur spatial sur ces programmes-là qui vous rapportent autant à finalement peu de frais. Sauf que quand vous êtes aussi un politique chinois, vous arbitrez entre différents grands domaines dans lesquels il y a la possibilité pour vous de devenir une première puissance. Et moi, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, si vous preniez en compte tout ce qui peut être génie génétique, intelligence artificielle, etc., ben finalement, ça ne soit pas encore plus directement séduisant d'investir dans ces domaines-là que dans le domaine spatial. La valeur symbolique, d'accord. Le deuxième chose qui me paraît très intéressante dans l'argument là qui vient d'être mis en avant sur les futurs traités, c'est que ça mène très loin cette histoire parce que par exemple l'Inde a fait un essai anti-satellite donc pendant la dernière campagne électorale du Premier ministre Modi, alors que l'Inde avait toujours eu des positions extrêmement pacifistes dans l'espace et elle l'a fait au nom finalement d'être elle aussi présente dans les éventuels futurs traités qui, un petit peu comme on l'a fait pour le nucléaire, n'autoriseraient plus de nouvelles puissances à tester alors que les anciennes puissances auraient encore le droit de le faire. Donc c'est le traité de non-prolifération nucléaire. Donc si vous voulez, ça je trouve ça extrêmement dangereux et il me semble que c'est bien de revenir, alors peut-être c'est un petit peu parce que c'est ce que je fais beaucoup, mais l'occupation de l'espace, quand vous regardez exactement qui est dans l'espace, qui fait quoi, avec quel budget et dans quelle perspective, je pense que ça permet quand même d'avoir un cadrage qui remet un peu les choses en place.
Oui, finalement, à cette question, à qui appartient l'espace? Au fond, pour le moment, c'est aux Américains. Julien Mariès. Isabelle.
C'est à personne, effectivement. D'un point de vue juridique, ça n'appartient à personne. Après, comme le disait d'ailleurs M. Forget dans son intervention, effectivement, si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord au niveau international et que vous êtes la seule puissance à aller quelque part sur un corps céleste, in fine, c'est vous qui, quelque part, ferez un peu la loi. Et il y a une évidence qu'on peut quand même rappeler, c'est que la police de l'espace n'existe pas encore. Donc empêcher les Américains ou les Chinois ou les Russes, une fois établis sur un corps céleste, de faire ce qu'ils veulent, effectivement, c'est un peu une vue de l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux se mettre d'accord avant sur des principes. Et les Américains, ils sont un peu sur une voie médiane actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont lancé il y a quelque temps l'initiative Artemis, des accords Artemis, qui en fait sont le complément juridique du programme Artemis. Le programme Artemis, c'est le programme de retour sur l'une des Américains, qui est bien connu maintenant. Et les Américains ont lancé en fait donc les accords Artemis, qui sont en fait une sorte de, pas de traité, ce ne serait pas contraignant, ce sont des lignes directrices non contraignantes que leurs partenaires sont libres de signer ou non, et qui, quelque part, énoncent un peu la vision américaine de ce que devraient être les conditions juridiques de l'exploration robotique ou humaine de la Lune.
Bon. Et donc de l'utilisation de ces ressources, l'appropriation ou non de ces ressources.
Tout à fait. Et les Américains disent, si vous voulez participer au programme Artemis, d'un point de vue, je dirais, opérationnel, programmatique, vous devez signer les accords Artemis. Donc c'est une forme d'instrument un peu international, mais
piloté, qui
garde quand même un caractère très unilatéral, si vous voulez. Donc c'est une sorte de voie médiane entre le multilatéralisme onusien et puis un unilatéralisme pur où les Américains ne consulteraient personne et se comporteraient comme ils le souhaitent sur les corps célestes.
Alors, bien compris, hein, c'est très compliqué, très complexe, on ne fait qu'aborder ces questions, mais quand même j'ai envie de revenir aussi avec vous Isabelle Sorbas-Verger sur cette question. On a bien compris qu'il y a un fantasme quand même du côté de la puissance spatiale chinoise. Par contre il y a la question des satellites, puisqu'aujourd'hui on dépend tous des satellites, donc comment peut les installer et les envoyer dans l'espace. Il y a les acteurs privés également qui viennent là, qui posent des questions, j'imagine, juridiques, géopolitiques, assez fondamentales, parce que l'espace appartient à tout le monde, mais enfin, il est vaste, mais peut-être pas tellement que ça. Et puis, si tout le monde met ses petits satellites, ça fait du monde. Julien ?
Alors, oui, effectivement, la question de la régulation des activités privées est tout à fait fondamentale. Il faut savoir aussi que les traités appellent les États à autoriser et contrôler les activités spatiales nationales, qu'elles soient publiques ou privées. Et une grande partie des États, je dirais un nombre croissant d'États, se dotent actuellement de lois spatiales nationales, la France l'a fait en 2008, qui viennent encadrer, en quelque sorte, la façon dont les opérateurs nationaux, notamment privés, vont se comporter dans l'espace. Donc c'est effectivement une responsabilité forte qui pèse sur les États, et il faut que les États effectivement prennent la mesure de ce que seront demain les activités privées sur les corps célestes, parce que Artemis est un programme public, certes, mais ce qui est sûrement plausible sur le moyen terme ou le long terme, c'est que les acteurs privés investiront quelque part la Lune, Mars ou les astéroïdes pour en exploiter les ressources. Et donc il faut évidemment, avant que les États, je dirais, ne légifèrent de façon un peu anarchique, voire incohérente entre eux, il faudrait effectivement d'abord avoir un cadrage international. Mais effectivement, la question de l'encadrement des activités privées est tout à fait fondamentale.
Isabelle Sorbas-Verger.
Oui, je compléterai effectivement dans la foulée. Vous parliez du nombre de satellites. Alors, la question, c'est d'abord celle des constellations de satellites de télécom, qui prévoit beaucoup de satellites de défilement. Donc là, Elon Musk, sa constellation, en a déjà plus d'un millier. Bon, il y a une forme de nettoyage un petit peu naturel dans l'espace qui est le fait qu'au bout d'un moment, les satellites qui sont attirés quand même par la gravité terrestre finissent par pénétrer dans l'atmosphère et par brûler. Mais ça, c'est un renouvellement qui, bon, de toute façon, est pas quand même très très rapide, surtout si votre satellite il est à une altitude relativement élevée. Et puis, pendant la période où le satellite n'est plus manœuvrant et celui où il va brûler en orbite, vous avez quand même un laps de temps dans lequel il y a des problèmes. Vous avez de même façon le problème des débris. Donc là, on arrive sur un autre volet qui est intéressant de la réglementation spatiale, je dirais, qui est la question du Space Traffic Management, gestion du trafic spatial. Et là-dessus, ce qu'on voit finalement, c'est que dans un premier temps, les principales intéressées, c'est-à-dire les agences spatiales, ont essayé de s'entendre pour faire des groupes de travail sur les débris et essayer de voir comment générer le moins de débris possible. Ça, je pense, a été une première étape très intéressante. Et puis aujourd'hui, là encore, la question de cette gestion du trafic avec, par exemple, aux États-Unis, on voit bien la FAA l'IRA qui règle le trafic aérien, qui est à son tour impliqué dans une réflexion sur sur cette gestion-là. Et vous avez par exemple aujourd'hui en Europe pas mal de travaux qui sont en cours et de réflexions, de groupes de réflexion, y compris non pas seulement au niveau de l'Agence spatiale européenne, mais aussi au niveau de l'Union européenne pour promouvoir des règles concernant, si vous voulez, la durabilité de l'accession aux orbites et de l'exploitation de ces orbites afin d'éviter qu'on soit finalement sur premier arrivé, premier servi et que des pollutions éventuelles d'orbite empêchent d'autres États de pouvoir à leur tour utiliser ces ressources.
Julien, vous vouliez ajouter un mot ?
Oui, effectivement, la création d'un régime de gestion du trafic spatial, du Space Traffic Management, c'est effectivement une idée qui actuellement fait son petit bonhomme de chemin, auquel les États réfléchissent. Ceci étant, la contrainte finalement qu'on a aujourd'hui, c'est que le fait de pouvoir accomplir cette mission de Space Traffic Management suppose des moyens techniques importants, qu'aujourd'hui seuls les Américains, dont seuls les Américains disposent réellement aujourd'hui. En France, on a des satellites, notamment militaires, qui permettent effectivement d'observer l'espace et de caractériser les objets spatiaux en orbite. Mais l'essentiel des moyens repose effectivement malgré tout sur les États-Unis. Et donc comment mettre en place un régime entre guillemets souverain de gestion du trafic spatial fondée sur des moyens étrangers, c'est toujours un peu compliqué. Donc,
on y revient autour de la question à qui appartient l'espace. Hein, on a bien compris qu'on n'y échappait pas. Est-il encore possible de l'étudier gratuitement, l'espace, juste pour faire avancer nos connaissances et nos interrogations? C'est la question qui fâche un peu, soulevée par Nabila Aghani, astrophysicienne à l'Université Paris-Saclay, qui vient de percer le mystère de la matière cachée et de l'univers. Elle était récemment notre invitée, on l'écoute.
Le droit spatial, effectivement, est quelque chose qui est d'actualité et qui est d'autant plus d'actualité dans le contexte actuel du lancement des très grandes constellations de satellites pour nos fameux téléphones portables et tous nos objets connectés et toute notre domotique. Il y a de plus en plus de constellations de satellites qui sont lancées et qui affectent de manière très importante les observations astronomiques. En fait, ces constellations de satellites, ces satellites laissent des traînées dans les images astronomiques et détériore le ciel observé. Et il est vrai qu'à un moment, il y a eu, au cours de la fameuse année de la lumière, il y a eu toute une prise de conscience sur le patrimoine mondial qui est le ciel étoilé. Ce ciel étoilé qu'on ne peut déjà plus voir depuis nos fenêtres, du fait de la lumière des villes ambiantes, et qui finalement va être de plus en plus réduit, de plus en plus affecté, de plus en plus pollué, et réellement coupé de sa substance scientifique par ces constellations. Et la question qui se pose, c'est que dit le droit sur ces aspects-là? À qui appartient le ciel? Est-on autorisé d'envoyer autant de satellites au risque de finalement détruire ce patrimoine scientifique, cette fois-ci, que sont les images astronomiques?
Qu'en dit le droit, Julien Mariez?
C'est une question assez épineuse, effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quel point de vue on peut se placer, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'envoi de constellations et de larges constellations par les opérateurs n'est pas interdit. Donc les opérateurs, sous réserve qu'ils obtiennent des autorisations de leurs États sur les aspects maîtrise en orbite de satellites,
vont continuer
à en envoyer, et ce n'est pas interdit ni par les lois nationales ni par les traités internationaux. Donc là, je vais pas dire qu'on est confronté à un vide juridique, mais en tout cas la question de la confrontation entre la liberté d'observation du ciel et la liberté d'envoyer dans l'espace des satellites n'est pas résolue aujourd'hui par le droit. Donc ce qui se passe, c'est un dialogue entre les astronomes et puis les opérateurs, notamment Starlink, donc de SpaceX, Amazon pour Kuiper, qui vise à réduire autant que faire se peut la nuisance qui serait causée par ces constellations sur l'observation. Donc il y a des mesures techniques qui peuvent être prises en termes d'altitude du satellite, en termes également de luminosité du satellite, pour réduire cette pollution, cette nuisance. Ceci étant, aujourd'hui, on est vraiment sur un dialogue et sur une mise en œuvre, je dirais, de bonne foi.
C'est ça, il faut de la bonne volonté, une bonne entente entre ben, grands États, acteurs privés et scientifiques qui ont toujours pu, jusqu'à maintenant, observer le ciel. Autour de la question, cette fois-ci, comment partager l'espace, comment partager la Lune, tiens, justement, nouvelle base avancée, nouvelle terre promise hein, pour tous les acteurs spatiaux. Ça, c'est aussi un vrai casse-tête, comme nous le confiait ici même une autre astrophysicienne que j'ai envie de vous faire entendre, Fatoumata Kebe, qui elle aussi s'intéresse de très près à la Lune et fait partie de plusieurs groupes de travail sur notre satellite.
Parce que je suis partie d'un groupe de travail sur la Lune, et en fait on parlait des safety zones.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah justement en fait on n'est pas d'accord. Parce que quand moi on m'a parlé de safety zones, j'ai dit ah oui donc ça veut dire que c'est des endroits qu'on va préserver pour faire de la science sur la Lune. Il y en a un autre qui m'a dit non, c'est des endroits auxquels personne ne doit toucher. Il y en a un autre qui dit ah non, ça doit être dédié à ceux, enfin aux agences spatiales ou autres. Et là on s'est regardé via Zoom, on s'est dit oulala. Et je sais que cette question-là va être très très compliquée, et le fait que, donc là il y a un projet de construire un télescope sur la face cachée de la Lune, parce qu'elle sera pas, il n'y aura pas d'interférence de la Terre, etc. Mais comme c'est porté par la NASA, alors est-ce que nous qui ne sommes pas américains, entre guillemets, est-ce qu'on y aura accès aux données? À quel niveau? Est-ce que l'Agence spatiale européenne va accepter de donner de l'argent ou pas? Comment on va être intégré dans le projet? Parce que du coup ça veut dire que s'ils installent leur télescope dans un cratère, c'est-à-dire que le cratère leur appartient? Ou pas? Est-ce qu'on peut leur dire de bouger le... Enfin,
C'est sidéral et sidérant comme question, hein, vraiment.
Ça, ouais. Et c'est très très compliqué.
Oui, ça c'est éminemment compliqué et complexe. Est-ce qu'on peut apporter une réponse à toutes ces questions sur ces zones, safety zones sur la Lune? Mais safety zone pour qui, pourquoi?
Encore une question épineuse.
Eh bien oui, c'est ça. Non, au fond, ça montre bien qu'on ouvre des questions vertigineuses et qu'on a beaucoup de mal à y répondre.
Bien sûr. Là, il faut toujours se rattacher, je dirais, au droit, au traité. Parce que les traités, ils prévoient la liberté d'accès, enfin, liberté d'utilisation de l'espace et des corps célestes et liberté d'accès à toutes les zones des corps céleste. Donc un État n'est pas habilité, n'est pas autorisé à restreindre l'accès à une partie d'un corps céleste à d'autres États ou des particuliers.
Donc tout le monde doit y avoir accès.
Tout le monde doit y avoir accès. Évidemment, si vous avez des installations techniques sur un corps céleste, vous ne pouvez pas laisser rentrer n'importe qui, comment. Ceci étant, les traités prévoient que les États concernés doivent laisser un droit de visite aux personnes qui en font la demande. Bon, il faudra l'encadrer, évidemment, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a une liberté quand même d'exploration et d'utilisation qui est opposable à tous. Et deuxième élément, c'est que sur justement les accords Artemis dont je parlais tout à l'heure, les Américains ont introduit justement cette notion de safety zone, mais qui n'est pas une zone d'exclusion. Ce n'est pas une zone qui serait constituée sur la surface de la Lune, par exemple,
qui serait réservée
aux intérêts américains, à la NASA, aux opérateurs américains. Non, c'est une zone, en fait, dans laquelle des activités de plusieurs opérateurs peuvent entrer en interférence. Et donc, ce que prévoit en fait la NASA, les Américains, c'est que dans cette zone où plusieurs activités peuvent interagir, il faudra que les opérateurs, les États, se coordonnent, se concerte, dialogue, pour éviter justement qu'une activité cause des nuisances, des gênes à d'autres activités. Donc ce n'est pas une zone au sens zone d'exclusion, mais plutôt une zone au sens de zone de coordination, de concertation. Mais c'est logique, parce que, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas empêcher, réserver l'accès de certaines zones de corps célestes à vos seuls ressortissants.
Autour de la question à qui appartient l'espace, bon allez, on va dire c'est évidemment à nous tous et à personne, hein, en même temps. Comment ne pas reproduire autour de la Terre, au-dessus de nous, ce que nous avons déjà fait sur Terre. Allez, on continue de s'interroger en n'oubliant personne et surtout pas les Suds ni le continent africain dans cette aventure. À écouter avec Mademoiselle K sur RFI dans l'espace.
Dans l'espace, pas de son. Ils ont peur de perdre ce qu'ils sont. Si tu tends bien les yeux, tu peux les voir. Des gars, sur Terre, ils n'avaient plus les pieds. Alors, ils ont creusé des cratères, se sont enterrés. Thank you.
l'espace avec Mademoiselle K sur RFI autour de la question à qui appartient l'espace, en compagnie de Julien Marnès du CNES sur le droit de l'espace et d'Isabelle Sourbès-Verger sur la géopolitique spatiale. Comment faire que certains ne soient pas les grands oubliés de cette aventure spatiale, à commencer par le continent africain. On fait le point avec Sekou Ouedraogo, ingénieur en aéronautique et président de l'African Aeronautic and Space Organization, très engagé pour la promotion du spatial en Afrique, auteur chez l'Harmattan de l'Agence spatiale africaine Vecteur de développement et auteur d'un article dans ce numéro 59 des grands dossiers diplomatie consacré justement à la conquête de l'espace. L'Afrique à la conquête de l'espace. Où en est-on, Sekou Ouedraogo ?
Entre 1998 et 2020, on a 41 satellites africains qui ont été lancés par 11 pays africains. Donc l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Soudan et bientôt la Tunisie. Et le Burkina Faso a un projet de lancement de son premier nanosatellite, Burkina Sat 1. Donc ça peut devenir la 13e nation africaine du spatial. Le pays qui est le plus ancien dans ces problématiques, c'est l'Afrique du Sud. Donc depuis les années 60, ils travaillent sur ces problématiques. Et pour eux, le spatial, c'est quelque chose d'ancré dans leur politique globale de développement. Eux, c'est clair que je pense que sur le continent, ils sont leaders. Mais un pays comme le Maroc, qui a deux satellites, donc dont un gros qui vaut plus de 500 millions de dollars, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils y trouvaient un intérêt. Donc le Maroc aujourd'hui, avec ce satellite-là, il peut être considéré comme un acteur important. Il y a un pays comme l'Éthiopie qui a lancé un satellite l'année dernière et qui a l'ambition d'en lancer 7 autres et de créer une petite constellation.
Des nations qui vont compter, un continent qui va peut-être compter enfin, c'est Sekou Ouedraogo, parce qu'on sait que c'est extrêmement important. Est-ce que vous pensez aussi qu'ils pourront rejoindre des collaborations, des grandes puissances dans ce qui est vraiment l'exploration et la conquête de l'espace ?
Moi, j'aime pas trop qu'on parle de conquête spatiale pour les pays africains. Je pense pas qu'on en soit là. C'est pas une question de conquête, en fait. C'est vraiment utiliser l'outil satellitaire pour le développement. Donc la conquête, à part l'Afrique du Sud, c'est une chose. Mais je pense que ce que recherchent ces pays, c'est utiliser les applications. C'est des domaines où il faut avoir beaucoup d'expérience. Parce qu'il faut avoir le temps de rater, de recommencer. Et donc, même l'Europe, elle a mis du temps à avoir le niveau de développement dans le domaine qu'elle a maintenant. Donc en Afrique, bon, il y a l'Afrique du Sud qui a une autorité. Après, on a des pays qui ont accès aux satellites, qui ont des chercheurs qui ont des connaissances dans le domaine des nanos et qui progressent. Et puis il y a une diaspora aussi africaine qui est importante, qui peut aider. Mais on ne peut pas parler de conquête spatiale à proprement dit. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale africaine, dans ses prérogatives, il y a l'astronomie et les sciences spatiales, mais il y a beaucoup tout ce qui est navigation, positionnement, ce genre de choses qui servent au développement.
Isabelle Sourbès-Verger, j'ai envie de vous faire réagir à cet éclairage hein, sur le continent africain et sur les petites puissances spatiales, l'Afrique spatiale. Comment faire finalement aussi pour ne pas reproduire dans l'espace ce qu'on a fait sur Terre ?
Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que là, on est quand même sur le deuxième volet, enfin peut-être tout l'intérêt et la finalité de l'activité spatiale, qui est son utilisation.
Bien sûr.
Et si vous prenez l'exemple de l'Inde, c'est un pays qui a développé son secteur spatial au besoin en utilisant des satellites d'abord américains, mais en faisant une coopération vraiment internationale, pour de l'application. Utiliser des satellites pour aider à la gestion du territoire, pour permettre du téléenseignement, de la télémédecine, etc. Et c'est dans cet esprit-là, et faire de la science. Et c'est dans cet esprit-là que s'inscrivent effectivement les pays africains. Donc ce sont des utilisateurs des systèmes spatiaux. Est-ce que pour être un utilisateur, vous avez besoin de posséder le satellite ? Et est-ce que pour autant, vous avez besoin de devenir une puissance spatiale en ayant un lanceur ? Là, visiblement, vous basculez dans une autre logique. Et c'est pas par hasard que c'était l'Afrique du Sud, qui est d'une certaine façon une logique d'affirmation, d'autonomie, d'indépendance et de présence sur la scène internationale. Et ça, c'est pas du tout, je dirais, une nécessité en soi. En revanche, et là on en revient malheureusement sur les enjeux terrestres, on voit bien que des pays qui sont les derniers venus dans le club spatial, et ça va être l'Iran, la Corée du Nord ou la Corée du Sud, vous êtes dans des pays qui finalement lient l'espace à d'autres enjeux, y compris des enjeux de sécurité ou, dans le cas de la Corée du Sud, des enjeux d'autonomie dans une zone régionale compliquée entre, d'un côté, la Chine, de l'autre côté, le Japon, etc., plus
la surveillance de la Corée du Nord. Donc effectivement, moi ce que je trouve très intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il faut peut-être arrêter de parler systématiquement de conquête, que peut-être même sur la Lune, on pourrait quand même imaginer que finalement ces grands projets ne donnent pas l'aspect financier et économique qu'on espère, et que donc du coup on pourrait imaginer que comme dans l'Antarctique, on se contente d'avoir une dimension scientifique. Je rêve peut-être un peu, mais c'est pas encore totalement exclu.
C'est ce qu'on peut espérer, et autant essayer d'aller dans cette direction-là, finalement.
Et en tout cas, ne jamais oublier cette direction-là et considérer que, certes, il peut y avoir des puissances spatiales, mais que l'espace, c'est d'abord un vecteur pour l'ensemble de la planète, y compris pour la gestion du développement durable et le suivi du changement climatique, plus les avancées scientifiques. Donc ça, je crois que c'est très très important de penser qu'il y a ça aussi.
Il y a ça aussi dans l'espace. Moi, j'ai envie de dire, il y a ça en premier. Merci de nous l'avoir rappelé, Isabelle Sorbès-Verger. Pour terminer, peut-être, Julien Mariez, alors je ne sais pas si on part dans la science-fiction ou pas, mais on a bien compris que l'espace servait au développement durable, et que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut essayer de le développer. Et puis pour nos communications, vous qui êtes juriste de l'espace, on peut imaginer... le meilleur, mais aussi le pire. On peut imaginer aussi des communautés scientifiques, d'ailleurs, qui iraient sur la Lune, sur Mars. Quel droit pour ces communautés-là ? Ouvrez bien vos oreilles, chers amis auditeurs, parce qu'on a déjà parlé de nos téléphones et ça m'a scotché.
C'est vrai qu'on peut imaginer effectivement des communautés humaines qui s'installent sur les corps célestes, sur la Lune, sur Mars, et qui deviennent en fait autonomes, par définition, puisque les relations avec la Terre-mère seront... réduite et voire de plus en plus réduite. Et je dirais, à fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, on peut imaginer une autonomie, une indépendance de plus en plus grande de ces communautés. Et vous le savez aussi bien que moi, évidemment, dès lors qu'une communauté devient un peu autonome, je dirais, en pratique, elle essaie d'obtenir son indépendance juridique. Et donc, ces communautés humaines, elles seront d'abord régies, je dirais, par le droit terrestre, elles seront rattachées à des États. Et puis on peut imaginer que ces communautés voudront se détacher, je dirais, du droit terrestre et constituer un droit martien.
Un droit martien, un droit lunaire. Allez, ça c'est de la science-fiction. Merci en tout cas d'avoir ouvert même à la science-fiction. Cher Julien Mariez, merci d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup Isabelle Sorbès-Verger d'avoir été en lien, en direct, par téléphone avec nous. Et je citerai le numéro 59 donc, de cette revue, Les Grands Dossiers de la diplomatie consacrée à la nouvelle conquête de l'espace, même si effectivement on pourrait parler d'un autre mot, et l'aventure spatiale nous plairait mieux. Merci à tous les deux, et puis vous revenez quand vous voulez, on n'a fait que commencer à aborder cet immense sujet de droit et de géopolitique spatiale. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur RFI Pure Radio. Vous-même nous distribuez des étoiles, des bonnes étoiles, on adore ça. À demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas et Caroline Fillette, le journal dans quelques instants sur RFI.